Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Sybille Clamins. Son regard cette semaine sur l'imploration exaltée de Nietzsche dans Aurore, paru en 1881. « Donnez-moi au moins la démence, puissance céleste, la démence pour qu'enfin je croie en moi-même. Donnez-moi le délire et les convulsions, les illuminations et les ténèbres soudaines. Terrifiez-moi par des frissons et des ardeurs telles que jamais mortel n'en éprouva, des fracas et des formes errantes. Faites-moi hurler et gémir et ramper comme une bête, mais que j'ai foi en moi-même. » Économiste explorant notamment la question de l'indépendance des médias, chercheuse affiliée au Center for Economic and Policy Research, je viens de dire ça avec l'accent d'Edith Piaf, et co-directrice de l'axe évaluation de la démocratie du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Notre invitée est l'auteur de plusieurs ouvrages et enseigne à Sciences Po Paris. Son dernier livre, L'information est un bien public, refonder la propriété des médias, est paru au Seuil.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Julia Cagé.
Bonjour Eva Bester.
Alors bon, c'est toujours un peu bizarre de poser une question aussi frontale aux gens qu'on ne connaît pas tout de suite. Mais êtes-vous contente d'avoir été mise au monde ?
Bah écoutez, plutôt oui. Hein. Moi je remercie mes parents tous les jours pour ça, d'avoir fait cet investissement.
On parle déjà de façon économique.
Ah non, c'est...
Donc oui, sans hésitation.
Oui, oui.
D'accord. Alors, et comment ça se passe la cohabitation avec vous-même ? Est-ce que vous appréciez votre propre compagnie ou est-ce que parfois il y a quelques démons ?
Bon, en général, ça se passe plutôt pas mal. Ces temps-ci, c'est un peu plus compliqué parfois avec mon corps. Perdu un peu la maîtrise au cours des derniers mois. Non, mais sinon, ça se passe pas mal. Je vais pas dire que c'est tous les jours facile, mais en général, je suis plutôt en harmonie avec moi-même.
Alors, Julia Cagé, vous venez de faire une allusion à votre corps. Moi, je n'allais pas en parler puisque je respecte la vie privée, mais est-ce que vous pourriez dire pourquoi ou est-ce que vous...
Oui, c'est pas un secret.
Parce que sinon, on a l'impression que vous vous transformez en... en créature de la mythologie.
Non, c'est juste que je suis enceinte de 8 mois et du coup il y a une certaine maîtrise du corps qu'on perd puisqu'il est plus entièrement à disposition. Et notamment comme j'aime beaucoup faire du sport en général, courir, etc. Il y a toute cette maîtrise en fait du corps qui a disparu, on va dire, récemment. Mais ça va revenir.
Bon, bah félicitations en
Merci.
Tout cas. Et je vous ai posé la question, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever ? Et vous avez répondu, la difficulté est plutôt de me garder au lit. Vous avez vraiment une forte envie de participer au monde, Julia Cagé.
Oui, non, c'est vrai. En fait, j'ai répondu ça spontanément parce que c'est un peu la vérité, quoi. Je me lève souvent, je me réveille souvent assez stressée de ne pas avoir le temps de faire ce que j'ai envie de faire pendant la journée. Alors, c'est très bizarre, c'est-à-dire qu'en fait, à la fin de la journée, je pense que je dois souvent réaliser que ce que j'ai fait n'était pas si urgent. Et du coup, cette espèce de nécessité de me lever pour aller écrire des livres, des articles, pour finir telle ou telle chose n'était pas une telle nécessité, mais ça revient régulièrement le matin. Cette idée que, j'en suis presque à 10 ou 15 minutes près, hop, d'arriver derrière mon bureau et de prendre ma plume.
Vous dormez peu ?
Non, je dors bien. En fait, j'ai pas vraiment ce problème-là le soir, assez bizarrement. C'est vraiment un problème du matin. Je pense que après avoir dormi, je me lève avec une espèce d'envie de faire des choses.
C'est un bon motif et c'est parfait pour cette émission. Dans un instant avec vous, il sera entre autres question de violence, de gouvernance, d'indépendance, de médias, de musique, de Martha Argerich, Jean-Paul Sartre, Martine Gillens, Laurence Lessig, Anna Pitkin, Anna Arendt, Leonard Cohen, David Bowie, Clint Eastwood, Auster, Aragon, Sagan, Debussy, Nabokov et d'autres. Si on a le temps, nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
L'embellie sur France Inter.
compagnons des mauvais jours. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais. La recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais. J'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît. J'aurais dû nous écouter. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon, plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, compagnons des mauvais jours, que vous soyez une bonne. Je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au conseil pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez, rêvez, moi je prends ma casquette et deux ou trois cigarettes dans le paquet et je m'en vais, je m'en vais. Compagnons des mauvais jours, pensez à moi quelquefois, plus tard quand vous serez réveillés. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer.
Du groupe Feu Chatterton, nous sommes avec l'économiste Julia Cagé et c'est le moment où je vous demande si vous aimez le monde dans lequel vous vivez.
Pas. Ne partez pas.
Non, mais c'est une question que je trouve infiniment difficile. C'est-à-dire que je suis plutôt heureuse d'un point de vue personnel. Donc ça serait une manière de dire que j'aime bien le monde dans lequel je vis, et en même temps le monde qui m'entoure, je l'aime pas du tout aujourd'hui, de milliers de points de vue. Je pense qu'on est dans un monde où on n'a jamais eu un tel niveau d'inégalité, une telle violence des discours. Je pense que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour d'un Éric Zemmour témoigne assez bien de cette violence du monde envers tout ce qui est différent entre guillemets, cette espèce de méchanceté aussi. Enfin, je veux dire, quand je sors de chez moi et que je vois des migrants qui dorment dans la rue, je vois Place de la République, ou à la place de se dire qu'on va essayer de les accueillir dans de bonnes conditions, on va leur prendre leur tente et les détruire. C'est quand même assez dur de bien aimer ce monde-là. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, c'est pas évident non plus de se dire que c'était beaucoup mieux il y a 50 ans ou 60 ans ou 70 ans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait quand même essayer de vivre dans un monde un peu plus juste et un peu plus solidaire.
Julia Cagé, ça va revenir beaucoup au cours de cette émission, ces idées-là. C'est l'influence disproportionnée des plus riches sur le débat démocratique. Vous, vous vous concentrez en ce moment sur les médias, vous enseignez l'économie des médias, mais vous êtes évidemment penché aussi sur la question de la démocratie, et donc cette ce monopole des plus riches sur absolument toute la vie, sur la société en fait, est vraiment votre sujet de réflexion central.
Oui,
c'est cette violence, on la ressent dans à peu près tous les domaines.
C'est ça qui est vraiment le sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire essayer de comprendre toutes les formes que peut prendre l'argent privé pour essayer d'influencer le débat démocratique et le débat public. Donc il y a la question des médias, il y a la question du financement de la vie politique, donc du financement des partis politiques,
des campagnes
électorales. Et puis il y a une autre question qui me tient de plus en plus à cœur pour déconstruire ce terme, qui est la question de la philanthropie. Parce que je trouve que justement tous ces milliardaires de la tech qu'on nous présente comme des super philanthropes, alors qu'ils vont littéralement ils vont s'envoyer en l'air sur Mars dans des vaisseaux spatiaux à la place de mieux dépenser leur argent puis de moins polluer la planète, ça me pose vraiment problème. Et c'est vrai qu'on essaie d'imposer un discours enfin qui déjà pose problème dans ses conséquences réelles, mais qui ultra violent pour tout le reste de la société, où on prétend, parce qu'un petit nombre d'individus auraient réussi d'un point de vue économique, ils seraient mieux à même de définir ce qu'est le bien public, ce qu'il faut dépenser pour l'éducation, ce qu'il faut dépenser pour la santé, ce qu'il faut dépenser pour l'environnement ou pour l'art. Voilà, c'est eux qui vont décider aujourd'hui qui va avoir quel musée à Paris et quelle collection on va décider de montrer ou pas. Et ça se fait au détriment de l'ensemble de la population d'une certaine manière, et puis surtout au détriment de la démocratie telle que définie comme une personne, une voix. Malheureusement, on est quand même de plus en plus vers un euro, une voix. Et ce que je trouve très dangereux, notamment dans le domaine de la philanthropie, c'est qu'en plus, derrière ça, il y a une espèce de justification morale, puisque ça serait une manière pour ces individus très riches de cacher leur influence derrière l'idée selon laquelle ils seraient en train de faire le bien.
Et surtout, Julia Cagé, quand on lit par exemple votre ouvrage Le prix de la démocratie, on se rend compte qu'il y a plein de donateurs où en fait derrière il y a des avantages fiscaux assez importants, et surtout le reste de la population en fait paye pour ça, c'est-à-dire que si on a beaucoup d'argent et qu'on est censé payer beaucoup d'impôts, mais quand on fait un don, on a quand même une partie qui est remboursée par les contribuables.
Une énorme partie.
C'est très choquant quand même.
Oui, c'est très choquant. Il faut savoir que pour les contribuables qui aujourd'hui sont encore assujettis de ce qui nous reste d'impôt sur la fortune, donc l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, quand ils vont donner à une fondation d'utilité publique, en fait, ils vont donner 1000 euros. Il y a 750 euros, 75% de la charge, de la somme qui est à la charge de l'ensemble des citoyens. Et eux, ils vont payer 250 euros. Donc on a l'impression qu'ils font un don, qu'ils font preuve de générosité. Et en fait, c'est l'ensemble de la population qui paie pour la majorité de ce don. Ça, c'est vrai pour les dons à des associations, à des fondations. Ce qui est encore plus choquant, c'est que c'est vrai pour des dons politiques. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent et que vous donnez 7500 euros à un parti politique, pour le coup, vous avez deux tiers de la somme qui vous est remboursée. Ce qui veut dire que l'ensemble des Français paye 5000 euros.
Alors que quelqu'un qui a peu de ressources ne sera absolument pas remboursé.
Alors ça, c'est vraiment la double inégalité. Déjà, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de ressources ne peut pas donner 7500 euros par an à un parti politique. Il pourrait le vouloir, hein. Il a le droit d'avoir des préférences politiques comme quelqu'un qui a de l'argent. Souvent, il en a d'ailleurs, mais il n'a pas les moyens de le faire. Et ensuite, même s'il donne 30 euros, comme il n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, et pourtant il paye beaucoup d'autres impôts, hein, et en fait la majorité des autres impôts, ben il va payer ces 30 euros-là plein pot. Et du coup, on est vraiment rentré dans un système politique où ce sont les plus pauvres qui paient pour satisfaire les préférences politiques des plus riches.
Là, on fait un pas à côté, mais exactement dans le même domaine finalement, Julia Cagé, puisque bon, je dirige les auditeurs vers vos deux ouvrages, Sauver les médias et le dernier, L'information est un bien public, puisque dans vos engagements, il y a, je le disais tout à l'heure, la lutte pour l'indépendance des médias. Et donc en 2020, vous avez été élue présidente de la Société des lecteurs du Monde, et vous avez créé, il y a un peu plus d'un an, et vous présidez l'association Un bout des médias, qui était Un bout du monde, juste avant, et dont l'objectif est justement de se battre pour l'indépendance des journalistes en mettant au cœur de la gouvernance et de la
l'actionnariat, les salariés et les lecteurs. Ça, c'est arrivé après, justement, par exemple, l'entrée dans le capital du journal du milliardaire tchèque Kretinsky.
C'est arrivé après ça, et puis c'est arrivé dans un contexte où aujourd'hui, vous avez la majorité des médias en France qui sont possédés par un tout petit nombre de milliardaires, de grands groupes industriels. C'est arrivé dans un contexte qui est quand même extrêmement particulier aujourd'hui, avec un Vincent Bolloré qui, après avoir pris le contrôle en 2016 de Canal+, après avoir mis au pas et détruit la rédaction d'iTélé à la même époque, créé CNews, qu'il a mis au service d'une idéologie d'extrême droite, vient de faire exactement la même chose aujourd'hui à Europe 1. Je veux dire, il y a la moitié des journalistes d'Europe 1 qui sont partis depuis le début de l'année. Le matin, quand on écoute France Inter, on écoute France Inter. Quand on écoute aujourd'hui la matinale du week-end sur Europe 1, on écoute CNews. Ça, c'est extrêmement problématique. Et moi, ce dont j'aimerais qu'on se rende compte, parce qu'on est dans un contexte de défiance croissante envers les médias, y compris pour de bonnes raisons, mais ce dont j'aimerais qu'on se rende compte, c'est quand on se bat pour la liberté des médias, pour l'indépendance des journalistes, quand on se bat pour protéger les salariés d'Europe 1, on ne se bat pas pour une profession, on ne se bat pas pour une corporation, on se bat pas pour une radio d'ailleurs, qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas, on se bat pour l'information qui nous est donnée à nous comme citoyens. Et cette information, on en a besoin dans une démocratie. Et on a besoin d'être informés par des médias libres et indépendants. Et je pense qu'il faut qu'on se batte tous beaucoup plus fortement aujourd'hui pour préserver l'indépendance des médias, parce qu'elle est quand même un peu partout menacée.
Alors il y a plusieurs propos qui m'ont donné envie de réagir dans ce que vous disiez, Julia Cagé, mais en fait il faut qu'on ait 8 heures devant nous.
Donc... Moi je reste. Hein.
Oui, bah oui, moi aussi. Alors vous proposez des solutions concrètes justement pour l'indépendance des médias. J'ai plusieurs questions à vous poser. Par exemple, vous dites que 10 millions de citoyens visitent chaque mois le site du Monde. S'ils contribuaient à hauteur de 5 euros, ils pourraient apporter vraiment un changement à ce média.
Oui, moi ce que je pense, c'est que la solution aujourd'hui au fait d'avoir des milliardaires qui possèdent des médias, c'est, enfin, elle est double. C'est un, d'essayer de changer l'actionnariat des médias et de le changer de fond en comble, c'est-à-dire à la place d'avoir des milliardaires, d'avoir un actionnariat de lecteurs, de citoyens, de salariés, de journalistes. Et il se trouve qu'au Monde, ça a été le cas historiquement. Historiquement au Monde, vous avez eu pendant des décennies la société des rédacteurs, la société des cadres, la société des lecteurs qui ont été les actionnaires de référence du journal. Ça, c'est la première chose. Ensuite, parce que justement, j'ai créé une association, Un bout des médias, on voit à quel point c'est dur de faire ces changements concrets. Et notamment, il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans un contexte dans lequel ceux qui possèdent les médias n'ont pas fondamentalement envie de les vendre. Donc, c'est dur de rentrer au capital. Par contre, il faut quand même pas oublier qu'il y a un ministère en France qui s'appelle le ministère de la Culture et de la Communication.
J'en ai entendu
Alors,
parler.
C'est dommage, parce que souvent, on parle pas beaucoup de la communication, mais qu'on peut faire des lois aussi pour mieux réguler les médias. Et notamment, si on n'arrive pas à s'attaquer uniquement au capital, il faut s'attaquer au problème du capital, il faut aussi s'attaquer à la question de la gouvernance. Et dans le livre L'information est un bien public avec Benoît Huette, nous ce qu'on propose, c'est une loi de démocratisation des médias. Et notamment, on dit que pour que les médias papier ou en ligne aient accès aux aides à la presse, ou pour toutes les chaînes de télévision et de radio, ça devrait rentrer dans le cadre des conventions avec le CSA, il faut une gouvernance démocratique, c'est-à-dire au moins la moitié de salariés au conseil d'administration de ces médias, dont 2/3 de journalistes, c'est-à-dire un vote sur le choix du directeur ou de la directrice de la rédaction par les journalistes, renforcer vraiment les journalistes qui sont quand même fondamentalement les meilleurs garants de leur propre indépendance.
Parfois oui, Julia Cagé, là j'ai l'impression d'être dans la matinale. Donc pour les auditeurs qui nous auraient rejoints maintenant, je les préviens qu'on va aussi écouter de la musique, parler de littérature et de films. Mais en tout cas, vos ouvrages vraiment sont très clairs et expliquent très bien toutes les idées que vous essayez de condenser maintenant. Juste avant qu'on écoute un peu de Chopin, puisque ça fait toujours du bien, je voudrais vous demander brièvement si, vous qui êtes membre du conseil d'administration de l'AFP, vous ne pensez pas qu'à partir du moment où le réel est embrassé et mis en scène par une subjectivité humaine, enfin, tout est biaisé sans cesse, malgré le fait que certains faits soient indéniables. Tout est biaisé sans cesse. Donc comment est-ce qu'on peut faire confiance finalement aux journalistes ?
Mais c'est pas parce qu'une information va être biaisée, c'est-à-dire orientée politiquement, qu'il doit y avoir de la méfiance envers les journalistes. Il faut faire confiance aux journalistes sur le fait d'avoir des faits. Ensuite, on a toujours eu des médias de droite, des médias de gauche. Et il faut justement que ce biais, ou en tout cas cette couleur politique qu'on apporte à l'information, elle soit transparente. Le problème, c'est quand on va nous dire « Ah bah tiens, ceci est une information totalement objective et indépendante ». À la limite, ça c'est le travail, justement, puisque vous mentionnez l'AFP, l'agence France-Presse, c'est le travail des agenciers. Les faits, rien que les faits, la vérité brute. Et puis ensuite, les médias sont justement là aussi pour nous raconter une histoire. Mais ça doit se faire de manière transparente. Et puis surtout, ça doit se faire sans intervention extérieure d'un actionnaire qui achèterait un média à des fins politiques.
Pour pouvoir produire sa propre pensée en tant que lecteur, justement, moi, mon avis, il est totalement subjectif. Je pense qu'il faut lire des choses de plusieurs bords. Julia Cagé, que vous pouvez nous donner trois titres, trois sources de presse que vous consultez régulièrement?
Le Monde, Mediapart, Le Guardian.
D'accord. Nous allons passer en revue les œuvres et artistes ayant fait évoluer votre rapport au monde, Julia Cagé. Vous précisez que ça a été une lente construction. Et tout d'abord, il y a la pianiste argentine Marta Argerich, dont on entend l'interprétation du concerto pour piano numéro 1 de Chopin, accompagné par le London Symphony Orchestra, dirigé par Claudio Abbado, une musicienne qui vous fascine depuis longtemps et un concerto que vous pouvez écouter à l'infini.
Oui, c'est vrai. Et j'aimerais bien pouvoir le jouer aussi à
l'infini. Mais vous êtes pianiste aussi.
Un autre talent.
Vous avez fait des conservatoires?
Oui, j'en ai fait plusieurs années. Je pourrais même me compter en dizaines d'années. Et pendant longtemps, c'était ce qui me fascinait, enfin, ce que j'avais envie de faire jusqu'à 17 ou 18 ans, c'était de faire que de la musique et finalement de devenir pianiste. Je pense qu'ensuite, quand on écoute des gens justement comme Marta Argerich, ça met la barre tellement haut que ça éloigne un peu l'ambition. Après elle, c'est quelqu'un qui m'a toujours absolument fascinée par son caractère, par son indépendance. Il y a un documentaire, c'est Georges Gachot qui a fait ça au début des années 2000, qui s'appelle Marta Argerich, Conversation nocturne, qui est absolument formidable, et on suit tout son parcours. Ça va vous paraître très bizarre peut-être ce que je vais vous dire, mais moi j'ai toujours trouvé ça formidable d'être une personne qui est capable d'aller se couper un doigt si elle a pas envie d'aller participer à un concert ou
parce
un
qu'elle
concours
annule
de piano,
les concerts au dernier moment
le jour
sans
où elle a
problème.
Pas envie d'aller jouer, parce qu'on l'a quand même mis devant un piano un peu trop tôt, un peu contre sa volonté. En même temps, elle a un talent absolument inouï, mais elle a quand même réussi à s'appartenir elle-même, en fait. Et ça, je trouve ça très beau.
La seule théorie actuelle qui, quoi qu'on puisse penser d'elle dans ses détails, puisse donner une conception générale de l'histoire, c'est tout de même la théorie marxiste qui prend à partir de la structure économique et qui remonte à partir de là jusque aux structures politique, par exemple, ou idéologique d'une société. Là, vous avez un ensemble. Quand la presse marxiste critique, c'est tout de même à partir de là.
Oui.
Elle peut être injuste
cohérent
pour des hommes, ça n'est pas douteux. Elle peut traîner dans la boue quelqu'un qui, après tout, ne le mérite pas. C'est certain. Mais finalement, elle ne s'intéresse pas tellement aux individus, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est qu'elle explique les événements à partir d'un système.
Tout à l'heure, j'ai dit qu'on se croirait dans la matinale, et là, Julia Cagé, vous m'avez dit pendant l'archive de Jean-Paul Sartre, on se croirait sur France Culture, ce qui pour moi est un compliment, puisque je viens de là-bas. Eh bien, Jean-Paul Sartre, qui s'entretient avec Robert Mallet en juillet 1955 sur la RTF, vous avez découvert Sartre étudiante, et c'est lui qui vous a donné envie de vous engager dans la voie que vous avez choisie. Vous vous souvenez de cette rencontre avec son œuvre ?
Oui, plutôt assez bien. Donc j'étais encore étudiante, j'étais en classe préparatoire à Marseille. C'était en 2005 et on fêtait le centenaire de la naissance, bah, non seulement de Sartre, mais de Sartre, Nizan, Aron. Et du coup, je me suis plongée dans sa lecture. C'était à la fois dans la découverte de l'œuvre et dans la découverte du personnage. J'étais fascinée par les photos de ces jeunes hommes sur les toits de l'école normale supérieure et par cette idée de la figure de l'intellectuel engagé. Donc, ayant renoncé par manque de talent à être pianiste, je me suis dit, tiens, intellectuel engagé, ça serait quand même pas mal. Non, mais pour de vrai, en fait, j'aimais bien l'idée selon laquelle, avec des livres, on pouvait réussir à influencer le débat public. Ensuite, bon, vu l'extrait que vous avez cité, qui mentionne le marxisme, etc., qui est du Sartre très politique. Il y a bien sûr la question de toutes les erreurs qui ont accompagné les choix politiques de Jean-Paul Sartre, mais c'est quelqu'un qui a une œuvre tellement variée de sa philosophie, pour le coup, qui m'a toujours beaucoup échappé. Je tiens à dire que je se situe un niveau au-dessus de moi à ses romans, à son théâtre. Alors, j'ai toujours été fascinée par le théâtre de Sartre. Enfin, rien de très original. Enfin, Huis clos, les mouches, les mains sales. Je pense que pendant longtemps, j'arrivais pas à finir un texte sans essayer de placer dedans non récupérable, parce que je trouvais que cette fin était absolument formidable. Voilà, je trouve que c'est un personnage qui est fascinant et puis qui a quand même marqué son époque.
Julia Cagé, grâce à vous, j'ai découvert des intellectuels toujours vivants, ce qui est toujours sympathique dans cette émission, mais plutôt rare parce qu'il y a beaucoup de morts, que j'aime beaucoup aussi. Hein. Et alors, vous nous avez fait découvrir d'abord l'universitaire américain qui enseigne à Princeton, Martin Gillens, qui a publié notamment Affluence and Influence en 2014. Et en gros, je crois que l'idée principale, dites-moi si je me trompe, c'est que l'élite économique a une influence significative sur la politique du gouvernement, alors que le citoyen lambda a une influence dérisoire, voire nulle. Ça me rappelle tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission.
Oui, parce que ce livre, il m'a profondément influencé. Ça m'a beaucoup marqué parce qu'il y a cette intuition selon laquelle plus on a d'argent, plus on a d'influence sur le débat public, elle n'était pas nouvelle quand Martin Gillens écrit son livre en 2014. Ce qui est vraiment frappant dans la manière dont il le fait, c'est que, un, il est capable de le quantifier en utilisant des données d'enquête qui remontent aux années 1950 aux États-Unis. Il va le faire de manière très systématique. Puis l'autre chose qui m'avait frappé à l'époque, c'est qu'il arrive à lier ça vraiment à la question des financements de la vie politique. Et à partir de là, en fait, je me suis mis à creuser ces questions, non seulement dans le contexte états-unien, mais également dans le contexte français. Puis ce qui m'a marqué, ça c'est pas dans Affluence and Influence, mais il a un livre plus récent dans lequel il parle de démocratie par coïncidence. Je trouve cette formule extrêmement belle, mais elle exprime très bien en fait ce qui est en train de se passer et la crise de la démocratie. Cette formule nous dit que puisque ce sont d'abord les préférences politiques des plus riches qui sont satisfaites par les gouvernements, comment ça se fait qu'on n'a pas une révolution de la part des plus pauvres? Et il dit en fait parce qu'il se trouve que par coïncidence, aujourd'hui, sur la plupart des sujets, les plus modestes et les plus riches ont les mêmes préférences politiques. Le problème, c'est que c'est par coïncidence. Et ce qu'on voit aujourd'hui, avec l'accroissement des inégalités économiques, avec l'accroissement des inégalités politiques, c'est quand même que c'est de moins en moins le cas. Et c'est pour ça que notre système démocratique, fondamentalement, est en crise.
Alors, je ne sais pas si les cocos qui suivent vont pouvoir nous aider à se tirer de cette situation, Julia Cagé, mais vous avez aussi choisi le juriste américain Lawrence Lessig, qui est un ex-candidat aux primaires démocrates pour la présidentielle en 2016. Alors lui, il dénonce le pouvoir des lobbies. On reste un peu dans ce dont on traite. Et puis aussi, il y a une philosophe qui vous a beaucoup marqué, c'est Anna Pitkin. Et grâce à vous, j'ai découvert justement quelque chose de très intéressant sur lequel on trouve très peu de choses en français. C'est la notion de représentation descriptive. Je vous laisse nous dire un mot bref sur ces deux personnages.
Oui, alors, Lawrence Lessig, moi, c'est une figure que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il c'est un intellectuel, c'est un juriste, c'est un professeur de droit à l'université d'Harvard. Il est allé au bout de sa logique. Il se penche sur toutes les questions du financement de la vie politique aux États-Unis. Il pense que c'est le cœur du problème démocratique et je pense qu'il a en partie raison. Et il a dit, écoutez, moi je vais me faire élire président des États-Unis, je vais faire une réforme, c'est-à-dire interdire les dons privés pour mettre fin à la capture du jeu démocratique par l'argent privé, et après je démissionnerai tout de suite. Parce qu'il dit justement, en fait, le piège, c'est de rester au pouvoir. Une fois que vous êtes au pouvoir, vous n'avez aucune, finalement, incitation à changer ces problèmes-là. Bon, malheureusement, ce qui est quand même triste, c'est qu'il a, il a perdu, il ne va pas au bout de la campagne des primaires, en partie parce qu'il n'a pas levé suffisamment de fonds. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais c'est vraiment un personnage assez formidable. Anna Pitkin.
La représentation descriptive, comment vous expliqueriez ça simplement aux auditeurs?
Déjà, je veux inciter les éditeurs français à traduire son livre The Concept of Representation, qui pour moi est vraiment formidable, et le fait qu'il soit pas en français, justement, je pense que ça pousse pas vraiment à le lire et à le découvrir en France. En fait, ce qui est frappant, c'est cette idée de représentation descriptive, c'est-à-dire que de dire qu'on peut pas simplement être dans une démocratie représentative où on va élire des représentants qui vont satisfaire l'expression de nos préférences politiques, mais que c'est important d'avoir des représentants qui soient de manière descriptive à notre image. C'est important pour une femme.
Donc un petit groupe qui donne son pouvoir à quelqu'un qui lui ressemble, qui lui ressemble,
y compris physiquement.
C'est-à-dire avec une grosse moustache, si on a une grosse moustache, par exemple.
Bon, voilà, vous caricaturez un peu.
Oui, moi j'aime bien faire ça.
Un peu le propos. Non, mais en fait, on voit bien que le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un manque de représentation d'abord des femmes dans la vie politique, même si c'est en train de s'améliorer. On a un manque criant de représentation des catégories populaires. Aujourd'hui, vous n'avez pas un seul ouvrier parmi les député à l'Assemblée nationale, et ça ne s'améliore pas du tout, c'est en train de se dégrader. On a un manque de représentation des minorités. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte, les gens qui ne sont ni femmes, ni membres des classes populaires, ni minorités visibles, ils ne se rendent pas compte à quel point c'est violent de ne pas avoir parmi nos représentants politiques des gens qui nous ressemblent de manière descriptive. Et ça, Anna Pitkin, elle l'explique mieux que personne.
Toutes les références seront sur le site internet de l'émission.
Les gens dans la rue, quand vous promenez en voiture, vous regardez les visages des piétons. Il y en a qui parlent tout seuls, il y en a qui ont un drôle d'air, il y en a qui marchent au travers, il y en a qui sont affairés, mais d'une manière un peu maniaque. C'est très étrange. Les gens sont tous un peu affolés, je crois. Je crois que c'est une époque vraiment un peu trop tendue, si vous voulez, actuellement. De temps en temps, que quelqu'un, même schématiquement, explique, même confusément comme moi, ce qui peut penser de la vie par rapport, et que les gens y retrouvent une idée qu'ils ont eu eux-mêmes, ça les rassure. C'est rassurant. Non ?
1973, Françoise Sagan au micro d'André Halimi sur France Culture. Auteur que vous avez beaucoup lu, Julia Cagé, un peu comme un bonbon sucré, dites-vous. Sagan qui a beaucoup côtoyé Sartre, d'ailleurs. Alors là, j'ai un problème par rapport à vous et aux auditeurs. C'est qu'on a plein de sujets à aborder, on n'a absolument pas le temps, et je trouve ça horrible de priver les auditeurs de tout ce que vous nous avez soumis, parce que c'est assez réjouissant. Donc, je vous laisse nous dire un petit mot sur Sagan, sur Paul Auster, et sur Aurélien d'Aragon, qui est votre livre de chevet, dans le désordre, n'importe comment, en cadavrexie, comme vous voulez, et peut-être qu'on aura le temps pour Clint Eastwood et d'autres choses, ou peut-être qu'on va mourir tellement on va parler, je ne sais pas.
J'aime beaucoup Sagan, j'aime beaucoup ses romans. C'est assez bizarre, j'ai jamais compris pourquoi Sagan souvent n'était pas classé dans la grande littérature. Moi, ça m'est souvent arrivé à chaque fois que je voyageais, j'achetais un livre de Sagan pour découvrir celui que j'avais pas encore lu. Et à chaque fois, j'ai trouvé ça formidable, je trouve ça réconfortant. Je trouve ses titres à chaque fois magnifiques, que ça soit Bonjour Tristesse ou Aimez-vous Brahms. Je trouve qu'il n'y a pas de meilleure manière d'aller séduire quelqu'un que de lui demander Aimez-vous Brahms. Et puis le personnage, quand même, avec tout ce qui l'accompagnait, est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup fasciné. Ensuite, oui, vous m'aviez demandé des livres. J'ai cité 4-3-2-1 de Paul Auster, parce que c'est un livre qui m'a énormément marqué, qui montre à quel point le destin ne tient qu'à un fil.
Parce qu'il imagine que chaque chose puisse être différente à chaque page.
Exactement. En fait, on a toute une histoire qui va se passer 4 fois de la même manière et différemment à cause d'un tout petit changement finalement dans cette histoire. Et en même temps, maintenant que je vous dis ça, je me dis que j'aurais mieux fait de vous citer quand même sa femme, Siri Hedvedt, et en particulier tout ce que j'aimais, parce que j'ai découvert beaucoup plus tard que Paul Auster, mais je trouve qu'un livre comme Tout ce que j'aimais est absolument, absolument fascinant. Et puis vous m'aviez demandé quelque chose de beau, et c'est vrai que Aurélien d'Aragon, je trouve ça magnifique. L'incipit d'Aurélien d'Aragon, la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouve à Fort-Laide, et tout le reste, surtout après. Je pense que c'est un livre qui est pas assez assez lu. Souvent, les gens ont peur que ça soit un espèce de classique ennuyeux, alors que je trouve que c'est vraiment un roman formidable.
Bah justement, c'est ce que je vous ai dit juste avant l'émission, parce que j'ai enfin eu l'occasion de le lire grâce à vous, Julia Cagé, et j'avais un peu fui toute ma vie cette lecture en pensant que ce serait mièvre, parce que ce serait une grande histoire d'amour et tout. Et au contraire, c'est justement plutôt l'impossibilité de l'amour. Et c'est cruel, drôle, follement intelligent. C'est extraordinaire, vraiment, Aurélien d'Aragon, si vous ne l'avez pas lu. Un mini mot sur Clint Eastwood, dont il y a les posters dans votre bureau à Sciences Po.
Il y en a un. Je vous ai pas dit ça?
Non, je l'ai lu. Okay. Non, moi, j'enquête sur les invités.
Non, il y a le poster de Million Dollar Baby, qui est un film qui m'a beaucoup marqué, sur une jeune femme qui a une vie assez triste et qui va tout abandonner pour se lancer dans sa passion qui est la boxe, et avec il va y avoir une histoire à la fois de d'amitié filiale, presque d'amour, avec Clint Eastwood et ses combats de boxe, et en même temps il y a toute la violence du contexte états-unien, toute la violence familiale aussi. Enfin, c'est un film qui m'a fait verser beaucoup de larmes. Il se trouve que Clint Eastwood me fait souvent verser beaucoup de larmes, et que je peux regarder en boucle sur la route de Madison, notamment pour la dernière scène dans la voiture sous la pluie. Donc maintenant tout le monde va me prendre pour une incorrigible romantique, ou je sais pas.
Ce que vous êtes, vous nous l'avez dit.
Oui, moi je pense que ce que je suis, en tout cas ça transparaît un peu là dans la référence que je vous ai donnée.
De Métronomie et Spiltab dans L'Embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Julia Cagé.
Est-ce que pour vous, Vladimir Nabokov, un roman, est-ce que ça n'est pas d'abord une excellente histoire?
C'est ça. Une excellente histoire. Et j'ajouterais toutefois que mes meilleurs romans n'ont pas une, mais plusieurs histoires qui s'entrelacent d'une certaine façon. J'aime voir le thème principal non seulement rayonner à travers le roman, mais encore développer des petits thèmes secondaires. Mmh. Quelquefois, c'est une digression qui tourne au drame dans un coin du récit.
Bernard Pivot reçoit l'écrivain Vladimir Nabokov dans Apostrophe en 1975. Il fait partie de votre équipement existentiel. Julia Cagé, notamment, ses lettres à Vera, donc sa femme, à qui il a écrit pendant 54 ans. Et c'est sublime.
C'est de la beauté à l'état pur. Et puis c'est une déclaration d'amour à son épouse. Il lui écrit à tout instant des lettres... qu'il qualifie d'ailleurs lui-même souvent de sans queue ni tête, puisqu'il va lui écrire ce qu'il a fait, ce qu'il a vu, puis ensuite il va lui déclarer sa flamme et puis revenir à des choses plus concrètes. C'est un condensé de beauté. Je pense qu'il faut en lire un peu chaque jour régulièrement. Je trouve ça merveilleux.
Vous dites aussi, Julia Cagé, que toutes les femmes devraient lire Une chambre à soi de Virginia Woolf, et les hommes également. Cela ferait faire un grand pas vers plus d'égalité femmes-hommes. C'est vrai, c'est paru en 1929 et c'est formidable, c'est drôle, c'est piquant. On peut pleurer aussi à la fin.
Oui, c'est vrai. C'est un livre qui est quand même aussi profondément politique. Il y a deux niveaux de lecture. On peut le voir pour ce qu'il dit directement. C'est-à-dire, il parle notamment de la place, ou plutôt de l'absence des femmes dans la littérature. Mais en fait, il parle de l'absence des femmes tout court. Et notamment, il le rattache à des réalités très concrètes. Une réalité monétaire. Le fait que les femmes n'ont souvent pas d'argent, finalement, pour pouvoir décider ce qu'elles veulent faire. Puis une réalité physique, le fait qu'elles n'aient pas un lieu finalement pour pouvoir le faire.
Parce qu'elles doivent faire des puddings et repriser des chaussettes à la place.
Exactement, mais en fait j'ai relu même au moment de la Covid, enfin ce que nous dit le télétravail et ce que nous dit la croissance des inégalités, y compris salariales entre les femmes et les hommes pendant la crise sanitaire, ça nous dit ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait c'est les femmes qui en premier finalement sont renvoyées dans leur foyer à s'occuper des enfants et que qu'à la maison, finalement, c'est elles qui vont plus avoir d'espace, ni pour leurs loisirs, ni pour leur travail, ni pour leur création, dès qu'on est face à une difficulté, en l'occurrence cette crise sanitaire.
Julia Cagé, vous nous avez laissé le choix entre une étude du compositeur russe Scriabine, composée en 1903, dont nous mettrons les références sur le site internet, et ce qu'on entend là, ce qu'a vu le vent d'ouest de Debussy, prélude inspiré par le conte d'Andersen, Le Jardin du Paradis, est composé entre 1909 et 1910.
Je trouve que c'est une œuvre absolument magnifique. J'ai longtemps, enfin quand je jouais du piano pendant longtemps, je ne jouais quasiment que de la musique romantique. J'aimais beaucoup Brahms. Je voulais jouer du Rachmaninoff. Je voulais jouer du Beethoven. Et puis je fuyais un peu tout ce qui était davantage contemporain et toute la musique française aussi davantage contemporaine. Et c'est vrai que quand j'ai découvert Debussy, c'est un compositeur qui m'a fasciné. C'est un autre niveau d'écoute sans doute. C'est aussi un autre niveau d'interprétation, mais je trouve qu'il arrive à rendre des émotions, et c'est-à-dire même à rendre le vent, là en l'occurrence, avec la musique, avec les notes, d'une manière assez unique. Voilà. Vous m'aviez demandé quelque chose de beau, non ?
Oui, je vous demanderai toujours quelque chose de beau, Julia Cage.
Je trouve ça très beau.
Mais oui.
Debussy.
Mais oui. En fait, c'est comme si vous embrassiez l'impétuosité dans les œuvres d'art et que j'ai l'impression, puisque vous auriez aussi aimé écrire des romans et jouer de la musique, et puis en fait, toute cette impétuosité, vous la mettez au service du peuple. C'est quand même pas mal.
Bah, dit comme ça, c'est très gentil.
On arrive à la dernière partie de l'émission, à l'engagement que vous acceptez de prendre vis-à-vis de vous-même ou de l'extérieur à la sortie de cette émission. Et vous avez dit consommer moins de plastique. Donc on s'est penché sur des chiffres un peu terrifiants. Il y a 5000 milliards de morceaux de plastique qui flottent dans nos océans. Actuellement, il y a une croissance exponentielle de la production mondiale de plastique de 2,3 millions de tonnes en 1950 à 162 millions en 93, puis 448 millions en 2015. Je vous dis pas la suite parce que vraiment là, ça va. J'ai pas de mots.
Non, il y a pas de mots. Puis on est dans cette crise climatique. On voit qu'on n'arrive pas du tout à tenir nos engagements, qu'on en est très loin, que d'un point de vue politique, alors que pour toute la jeunesse et à raison, c'est la préoccupation majeure. Nous, on l'a fait souvent passer au second plan. Et je me suis dit que j'allais vous donner une réponse à laquelle j'allais me tenir.
Et comment est-ce qu'on peut faire alors?
Pour consommer moins de plastique, ouais. Déjà là, enfin c'est pas filmé, et tant mieux parce que j'aime pas la radio filmée, mais on a une bouteille d'eau en plastique.
C'est vrai, nous sommes coupables.
On est en train d'en boire, ce que je fais sans cesse, et voilà, je vais essayer de m'y tenir. Ça sera déjà un bon début, c'est un petit engagement. Il faudrait que j'en prenne d'autres, par exemple prendre moins l'avion, voyager moins de ce point de vue-là, consommer moins. C'est dur en fait quand on rapporte ce qu'il faut vraiment faire à la réalité de ce qu'on peut faire. En même temps, parce qu'on a commencé sur toutes les questions des inégalités, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques. Il se trouve que quand vous regardez les engagements qui sont pris aujourd'hui, si vous regardez ce que consomme en CO2 la moitié de la population la plus modeste, en fait, ils sont très en dessous. Enfin, ils consomment suffisamment peu pour s'en tenir aux objectifs de réchauffement climatique. Donc en fait, une grande partie du problème aujourd'hui vient des inégalités économiques et du fait que toute une partie de la population consomme beaucoup trop. Je pense qu'il faut, voilà, qu'il faut qu'on en prenne tous conscience. Et je vais commencer, grâce à vous, par arrêter de boire des bouteilles d'eau et m'en tenir aux gourdes.
Merci beaucoup.
Je vais terminer cette émission sur m'en tenir aux gourdes.
C'est pas m'en tenir aux gourdes, c'est parfait, ce ne sera pas le titre, promis. Merci beaucoup d'être venu. Votre essai Libre et égaux en voix va reparaître en format poche chez Pluriel en janvier 2022 avec une préface de Christiane Taubira. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage écrit avec Benoît Huette. L'information est un bien public, refonder la propriété des médias, paru au Seuil en février dernier, et celui paru juste avant, Le prix de la démocratie, disponible chez Folio. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. Il y aura même les choses dont on n'a pas eu le temps de parler. J'espère que votre semaine sera à la hauteur du perfectionnisme d'un gnou fignolant son récital. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.